I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis votre hôte et je suis, une fois encore, avec mon ami et collègue Arnaud Bordas.
Salut Arnaud. Une fois encore, c'est pas si souvent que ça, profite.
C'est pas si souvent salon. Justement, mais en fait on a quand même enregistré quelques épisodes ces derniers temps ensemble et ça c'est plutôt cool.
Ouais.
Cette semaine, on va parler d'un film que tu as choisi, que tu m'as fait découvrir d'ailleurs, parce que moi je ne l'avais pas vu, The Black Windmill,
voilà.
Contre une poignée de diamants de Don Siegel.
Voilà, titre français complètement con.
Oui, enfin, en tout cas très générique.
Ouais, voilà, surtout que on va en reparler tout à l'heure, mais le titre original est très important par rapport à l'approche, la manière dont l'histoire est traitée, les personnages.
Voilà, et c'est un film de Don Siegel, donc un film anglais, en l'occurrence. Hein,
son premier film anglais.
Tourné en Angleterre. Mm. Un thriller d'espionnage, mais bon, on va revenir un peu sur le genre du film, parce que c'est pas forcément... si évident que ça, c'est peut-être plus un film de vengeance enfin même encore pas vraiment de vengeance, mais en tout cas, on va le définir quand tu veux, ouais, quand tu vas le pitcher, avec Michael Caine.
Voilà, c'était bien aussi de faire un stéroïde sur Michael Caine, parce que ça a été les générations actuelles ont peut-être tendance à l'oublier.
Un vrai héros d'action.
Voilà, parce que c'est une époque maintenant où Michael Caine, il est tout doucement en train de finir sa carrière, où ça fait déjà quelques années qu'il joue un peu les seconds rôles, voire les troisièmes rôles de luxe dans les blockbusters de Christopher Nolan, notamment, et que ça a été un très grand acteur à une époque, très versatile, hein, qui a fait différentes choses, mais qui, à une époque, dans les années 70, est devenu un peu une sorte de... à son corps défendant, au sens littéral du terme, je pense, parce qu'il n'est pas forcément typé physiquement comme un héros d'action, mais il est devenu une sorte d'incarnation comme ça du badass cockney, quoi, tu vois, du mec de l'anglais issu du peuple, et qu'il ne faut pas trop faire chier. Il voilà, voilà. Y a eu d'autres exemples. C'est vrai qu'on aurait pu parler de Get Carter, par exemple.
C'est le plus connu, un film de gangster, je crois, La Loi du Million Français, un film de gangster de Mike Hodges,
voilà.
Qui date du tout début des années 70.
Il est très célèbre, surtout en Angleterre. En Angleterre, le film fait l'objet d'un culte dans toutes les boutiques. Il y a des posters.
C'est un film qui est cool. Hein.
Ouais, c'est bien, La Loi du Milieu. Et c'est même très bien, mais on s'est dit...
Il était aussi, il était en Hip Crest, Danger Media, des films d'espionnage, ouais. Des années 60.
Ah, c'était un vrai film d'espionnage,
voilà,
pour le coup.
Ouais, ouais. C'est ça.
Mais c'est vrai qu'on s'est dit, ah, bah, pourquoi pas, moi je t'ai parlé de ce film, et puis pourquoi pas faire un Michael Caine badass là, de cette époque-là.
Et puis c'est l'occasion parce qu'il sort chez Elephant.
Voilà.
Le film aussi, en fait, en Blu-ray, mine de rien. Donc, si le film vous intéresse, si on vous donne envie de voir le film, bah, il est disponible en Blu-ray. Mmh. Dans une copie, ma foi, assez correcte.
Puis avec quelques bonus, bon, de présentation. Et puis, avec moi, j'aime bien, ils font ça, Elephant, ils font ça un peu comme l'éditeur anglais Arrow. Là, ils proposent des jaquettes réversibles. Et,
avec la vraie affiche d'un côté.
Voilà, qui est juste magnifique, l'affiche originale. Et voilà, donc.
Et une affiche Photoshop de l'autre qui est pas.
Ouais, bah c'est l'affiche.
Moins magnifique pour le coup.
L'affiche française de sortie où on met un peu en avant l'actrice française Delphine Seyrig, tout ça, bon. Mais donc, ouais, non, contre une poignée de diamants.
Alors, Don Siegel, en fait, c'est aussi donc un film qui arrive dans sa carrière après quand même l'énorme succès de Dirty Harry, de l'inspecteur Harry.
Voilà, et on va dire c'est le dernier mouvement de sa carrière et qui s'ouvre sous les meilleurs auspices avec le carton de
voilà, et qui... alors, le carton de Dirty Harry, mais aussi le bid phénoménal des Proies, qui sont sortis plus ou moins la même année.
Un petit peu avant.
Ouais, c'était dans la même année. Après ce film-là, il y a Charlie Varick.
Très bon film dont tu me disais juste titre aussi qu'on aurait
c'est
pu
vrai
faire,
qu'on aurait
un,
pu faire
dessus.
Un excellent stéroïde dessus, parce que je pense que c'est vraiment, enfin en tout cas c'est un excellent film, donc en fait il mériterait qu'on fasse un épisode dessus. Et puis là, comment dire, ce Black Queen Mill, qui pour le coup a été un bide hein, à l'époque, je crois, si je dis pas
ouais,
de bêtises.
Bide critique, bide public.
Et qui a un peu disparu, en fait, qui a été mis de côté. Quoi.
C'est pour ça que c'est bien que Elephant là, le sorte en Blu-ray, pour le remettre un peu sur le devant de la scène, parce que c'est un film, c'est vrai, totalement oublié. Quoi.
Comme tu le pointais toi-même hors antenne, c'est un film dont même Michael Caine ne parle pas dans ses mémoires.
Voilà,
que c'est assez, assez aussi, étonnant. Quoi.
Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est quand même c'est très difficile quand on a préparé cette émission, de trouver de la documentation. Il y a quelqu'un qui l'aborde dans ses mémoires, c'est Joss Ackland qui joue dedans, hein, acteur qu'on connaît notamment pour ses rôles dans L'Arme Fatale 2 ou à la poursuite d'Octobre Rouge. Quoi. Mais,
c'est le diplomate dans,
à la poursuite d'Octobre
sud-africain.
Rouge.
Dans
L'Arme Fatale 2. Voilà.
Enfin, pas le diplomate, l'ambassadeur, pardon.
Ouais, bah, c'est un diplomate.
Oui, enfin, sud-africain. Hein,
Et donc lui dans ses mémoires, mais je ne les ai pas sous la main, elles sont très difficiles à trouver, hein. Joss Ackland c'est pas une star, et c'est je crois le seul à avoir parlé du film quoi. Et c'est bien dommage parce que c'est, moi je trouve que c'est un vrai fleuron du polar anglais 70s quoi, qui a pas perdu de son efficacité, dans lequel Michael Caine trouve un rôle vraiment à la mesure de son talent, pas courant encore une fois à l'époque quoi. C'est... Mais bon on va peut-être...
Tu vas pitcher.
On va peut-être pitcher d'abord, je vais pitcher. Donc, pour faire rapide, en gros, c'est un agent du contre-espionnage anglais que joue Michael Caine, dont le fils est subitement kidnappé. Ce qui est curieux, c'est que les kidnappeurs réclament comme rançon, d'où le titre français, donc, une somme en diamant de 500 000 livres, je crois, l'époque. De diamants qui appartiennent au chef, enfin que le chef hiérarchique de Michael Caine, qui est joué par Donald Pleasence, a récupéré sur une autre affaire. Quoi. Et donc ça veut dire qu'il y a une top à l'intérieur des services de contre-espionnage. Quoi. Donc voilà, et en gros.
Le MI6.
Voilà. Et donc en gros, Michael Caine va partir en croisade pour retrouver son fils, et ça va devenir son objectif number one. Alors. C'est là justement où on peut parler un petit peu de de ce que raconte vraiment le film quoi.
Putain, t'as pitché ça très rapidement dis donc.
Bah c'est ça l'histoire hein, mm-hmm. Après on peut renforcer avec des personnages secondaires, mais tu vas me dire que je traîne en route là. Donc voilà, non, c'est à travers ce pitch en fait, ce qui est intéressant c'est que le personnage joué par Michael Caine est une machine quoi. C'est-à-dire, c'est la machine parfaite au service de l'État. C'est quelqu'un qui est froid, calculateur, mesuré.
Méthodique.
Méthodique, qui fait son boulot et qui n'a aucun sentiment. Il est défini à plusieurs reprises comme ça dans le film. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on nous le présente, ce personnage, dans son travail, mais aussi à la fois dans sa vie privée. Où en fait cette personnalité lui est reprochée par sa femme et en fait tout l'intérêt du film, moi je trouve c'est là où la thématique se dévoile complètement, c'est dans un dialogue entre la femme et entre Michael Caine et son épouse où il lui dit ce que tu me reproches, mon absence d'émotion, c'est ça qui va nous sauver en fait quoi. Et donc il continue à fonctionner sur le même mood. Sauf que ses objectifs vont totalement dévier, c'est-à-dire il n'a plus aucun, il ne se soucie plus du tout de la mission pour laquelle il est payé, quoi. C'est-à-dire servir l'État, et que comme il le suggère à plusieurs reprises à son supérieur, à Donald Pleasence, il n'a qu'un seul objectif, c'est récupérer son fils.
C'est surtout qu'il est progressivement lâché, justement, par le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement ne va pas payer pour un enfant, en fait. C'est une rançon en fait qui coûterait beaucoup trop cher en fait.
Oui, et puis que c'est pas l'habitude des gouvernements de l'Angleterre. Mmh. C'est peut-être plus l'habitude les Français. On a une histoire un peu plus marquée là-dessus. Mais oui, c'est l'habitude des services secrets anglais, c'est de ne pas traiter avec de ne pas céder au chantage quoi. Donc après, à travers ça en fait. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'importance de Black Windmill, le titre original. Bon, on va essayer de spoiler un petit peu, mais sans...
Bon, ça serait bien de d'éviter quand même, parce que en fait, il y a mine de rien, c'est comme tu l'as dit, c'est un film qui est pas connu.
Pas de spoiler majeur, on va dire.
Voilà. C'est un film qui est pas vraiment connu, et c'est un film qui, comment dire, qui pourrait être connu par défaut, c'est-à-dire que dans le sens où, bah, mine de rien, ça s'inscrit dans la carrière d'un grand réalisateur, d'un grand acteur, donc je pense qu'on peut vraiment donner aux gens envie de le voir, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, ils en savent, mieux c'est.
Ouais. Mais bon, il se trouve que le à un moment, un des personnages évoque le fait que l'endroit où est l'enfant qui a été kidnappé donne sur un magnifique moulin noir, le Black Moon Mill du titre original. Et donc, en fait, ce que voit l'enfant, de la manière dont il vit cette expérience, son regard à lui, c'est ce moulin noir. Il voit ça. Et c'est le repère qui va aiguiller son père sur sa piste, quoi. Le film commence par un générique...
Enfantin,
ouais. Avec deux enfants, en l'occurrence le fils de Michael Caine et son ami, qui gambadent dans des prés, trucs comme ça, juste avant de se faire kidnapper. Et avec les lettres du titre... sont formés par des cubes d'enfants avec les lettres dessus. Bon, c'est un motif qui va être repris dans une scène importante, justement, de la scène dont je parlais tout à l'heure, de face à face entre l'épouse, entre Michael Caine et son épouse, où elle est en train de jouer quand il arrive dans la pièce avec des cubes de son enfant dans sa chambre. Mais en fait, c'est cette volonté, justement, je disais à travers le titre original, à travers ce générique d'ouverture, c'est de replacer les enjeux, les nouveaux enjeux. C'est déjà d'annoncer et de mettre en valeur les nouveaux enjeux du personnage principal. C'est-à-dire l'innocence, l'enfance, son enfant, qui c'est un type qui ne s'est soucié toute sa vie que de son boulot, au risque de perdre sa femme. Ce que je ne l'ai pas précisé, mais sa femme et lui sont séparés, et ils vont se rapprocher au fur et à mesure du film, quoi, justement, dans l'épreuve. Mais ce fait même de mettre l'innocence comme ça sur un piédestal qui surpasse tout, y compris la raison d'État, et le véritable propos du film, et nous montrer comment un personnage va switcher de cette raison d'État à cette, on va dire, entre guillemets, raison intime, quoi, tu vois, quoi, qui est la on peut même dire raison viscérale, parce que c'est la raison qui peut faire bouger n'importe quelle personne sur Terre, à peu près normalement constituée, c'est quand son enfant est en danger, quoi. Donc voilà, c'est un film assez riche, de ce point de vue-là, qui n'est pas juste un film d'espionnage. Et ce qui explique ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'au fur et à mesure que le film avance, on a de plus en plus l'impression d'aller vers un revenge movie, même s'il n'y a pas vraiment de revanche, quoi. Mais en tout cas, un film d'action...
Des enjeux très personnels, quoi.
Voilà, un film d'action orienté sur les enjeux personnels d'un personnage très déterminé, quoi.
Qui utilise toutefois, en fait, ses capacités d'espion, justement, pour, comment dire, retrouver la trace de son enfant aussi. Du coup, en fait, c'est ce qui catégoriserait peut-être le film dans une logique de film d'espionnage. Mais quand on dit film d'espionnage, en général, on s'attend à des enjeux qui touchent, en fait, la diplomatie entre des pays, ce genre de choses. Et c'est pas du tout le sujet du film, même si, le film s'offre un petit détour pour Paris, parce que ça se passe donc principalement à Londres, avec un détour, un voyage à Paris, donc avec quelques acteurs français... du cru assez
Il y a déjà Delphine Seyrig qui est déjà à Londres,
qui est un des personnages principaux, un personnage féminin principal, et je pense à Yves Afonso notamment, qui apparaît aussi en homme de main, franchouillard, quoi, ce genre de choses, quoi. Donc
Don Siegel, de toute façon, c'est deux villes qu'il connaissait très bien, hein. C'était un natif de Chicago, dans l'Illinois, qui était il venait d'une famille d'origine juive d'Europe de l'Est, hein, je crois. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui a pas mal bougé dans sa jeunesse, qui a fait des études à Londres, qui a fait des études aux Beaux-Arts de Paris aussi. Donc, c'est vrai que son Paris est parfaitement vraisemblable. Hein. C'est un Paris comme on pouvait le voir dans les films français de cette époque-là, quoi. De toute façon, c'est un film continental, hein, c'est un film européen. Bon, avant tout anglais, évidemment. Mais c'est vrai que c'est là où on voit une fois de plus... une des cordes qu'il a à son arc, Siegel, cette capacité à s'adapter à n'importe quel environnement, hein. C'est quelqu'un à cette époque-là qui enchaîne des polars urbains situés à San Francisco, des films historiques situés dans le Bayou, en Louisiane, là en l'occurrence, voilà, un polar londonien. C'était quelqu'un qui était moi, je trouve ça assez bluffant, quoi, surtout de la part d'un metteur en scène américain à cette époque-là, à s'adapter à n'importe quel environnement, quoi.
Ouais, puis il faisait pas que ça, tu vois. Je veux dire, en fait, son premier grand titre de gloire, en tout cas, c'était c'est, Invasion de Body Snatchers, hein, l'invasion des profanateurs de sépulture, qui est un film d'horreur, j'ai envie de dire séminal, quoi, tout simplement, parce que c'est un film qui démontre. Alors, c'est marrant parce que c'est pas forcément ce qui ressort dans ce film-là, d'ailleurs, en fait, son habituelle misanthropie. C'est quand même quelqu'un qui a une vision du monde assez noire, quoi. Et Body Snatchers, c'est quand même assez évident, on va dire.
Michael Caine, si c'était dans le film, il est quand même entouré d'une belle batterie de.
Oui, mais c'est pas la même chose, en fait. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est que c'est quelqu'un qu'on a, par exemple, sur Les Proies, on l'a beaucoup attaqué sur le soi-disant, comment dire, la misogynie du film, mais c'est pas tellement de la misogynie, en fait. C'est plus que, en fait, c'est une vision du monde global. Il y a beaucoup de personnages féminins dans le film, mais en fait, c'est sa vision dans l'inspecteur Harry aussi, en fait.
Ça m'a toujours semblé aberrant sur Les Proies, cette accusation de misogynie. Bien sûr. Un film où le
pire personnage de tous.
Le mal alpha, par définition, tu vois, du cinéma, quoi. Clint Eastwood se fait littéralement émasculer par une tribu de nanas, quoi, tu vois, qui l'enferme, qui le séquestre, qui le manipule psychologiquement et physiquement. Enfin, et tu te dis, ah bon, c'est un film isolé. Après, peut-être dans la représentation de la.
C'est misanthrope, parce qu'encore une fois, je pense qu'il n'y a aucun personnage, y compris des personnages qui sont censés être innocents, en fait, ne le sont vraiment à la fin. Et du coup, en gros...
Le film s'ouvre sur le personnage principal qui fait un baiser à une petite fille, quoi. Tu vois,
c'est un film qui est extrêmement, noir et malaisant, hein, soyons clairs, quoi. Moi, je trouve qu'il y a un chef-d'œuvre absolu, hein, mais qui a une vision du monde, en fait, c'est une vision du monde. Alors là, c'est peut-être le film le plus extrême chez Don Siegel, mais je trouve que, bon, déjà, Body Snatchers, en fait, se pose là-dedans, quoi. C'est-à-dire, ce n'est pas que une vision du communisme, en fait, Body Snatchers, qu'on a bien voulu dire, quoi. Et là, du coup, en fait, celui-là, finalement, c'est un film que je trouve un peu plus, pas solaire, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, un peu plus léger, on va dire, dans son approche, même s'il y a quelques scènes, comment dire, noires, tu vois. Ça reste finalement moins violent psychologiquement et
parce qu'après il y a de la violence quand même, hein.
Le film est violent, bien sûr.
Là, t'as quand même un des personnages principaux qui se fait exploser les couilles au Uzi, quoi.
C'est plus un divertissement, c'est ça que j'ai envie de dire, pas dans la, comment dire, et c'est pas du tout une façon d'aborder le film de manière hautaine, hein. C'est juste que dans ce sens je le trouve plus léger que les films pour lesquels moi je connais, en fait, Don Siegel, quoi.
Je pense aussi que c'est une manière pour Don Siegel de s'inclure dans un genre, hein, bon, qui n'est pas le genre de sa terre natale, quoi, tu vois. Ce que je disais tout à l'heure, quoi, le polar anglish, quoi. Ça a été le polar anglish, et notamment le polar londonien, ça a été un genre dans les années 50, 60, 70, qui est d'une richesse phénoménale, qui a produit des films inoubliables, dont sont sortis plein de réalisateurs. Je pense à des gens comme Michael Winner ou John Guillermin, qui, bon, par la suite, ont connu des carrières en dents de scie, plus ou moins concluantes. C'est un polar. Et c'est vraiment un genre, le polar londonien de cette époque-là, avec ses codes, avec ses... Toi, tu lançais des vannes, tu rigolais un petit peu pendant le film sur le côté prendre... Il y a Michael Caine, il va prendre sa tasse de thé, tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que c'est un genre où se côtoie, en gros, ce côté un peu cosy à l'anglaise, tu vois.
Oui, mais ça, c'est une vision qu'on a de l'extérieur, nous.
Non, mais c'est dans ces films-là, avec le service de thé. Tu sais, t'avais cette appellation là pour les films londoniens d'une certaine époque d'après-guerre là, qui s'appelait, alors je me rappelle plus le terme en anglais exact, mais c'était un terme qui signifiait tapisserie ou vieille tapisserie, tu vois, qui était défini pas mal de films comme ça, qui étaient pas forcément des films de genre, hein, purs, hein, mais des films qui mettaient en vedette Richard Attenborough, des trucs comme ça, et où t'avais ce côté intérieur anglais, tu vois.
Attenborough.
Ouais. T'avais ce côté intérieur anglais avec des tapisseries, avec le service à thé qui fait cling cling, tu vois. Et les Anglais, ils ont, avec le polar londonien de cette époque-là, ils ont amené cette imagerie, mais en la subvertissant avec de la violence, avec les rues mal famées des bas quartiers de Londres, tu vois, les trucs comme ça. Et voilà, quoi, c'est un genre très, très marqué et immédiatement... reconnaissable. Donc Don Siegel, moi je pense qu'il a pas fait, c'est pas quelqu'un qui fait le malin en général, Don Siegel, même si il a les moyens et il l'a prouvé d'être parfois très radical, tu vois, et de rentrer dans le tas, mais c'est quelqu'un aussi qui prend en compte les genres qu'il investit, quoi. quand qu'il fasse un film de Toll, un western, c'est la marque des plus grands réalisateurs de genre, c'est-à-dire c'est des gens qui renouvellent l'imagerie du cinéma de genre tout en connaissant parfaitement les codes. Et de toute façon, tu peux pas renouveler une imagerie sans en connaître la base, quoi, tu vois, quoi. Et donc voilà. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, il fait un vrai véhicule pour Michael Caine. On peut peut-être parler un petit peu, s'apesantir sur la performance de Caine. Moi, je trouve que dans le film, ce que j'adore, en fait, c'est que t'as ça aussi un peu quand même dans La Loi du Milieu. Mais c'est un film là. Contre une poignée de diamants, où Michael Caine, on a vraiment la quintessence de son talent, c'est-à-dire où c'est quelqu'un qui est capable d'être une sorte de gentleman un petit peu ironique avec l'œil qui frise, et puis qui l'instant d'après, tu sais, ce regard vitreux, quoi, avec la bouche crispée, et le regard littéralement où on a l'impression qu'il va fracasser le mec en face, quoi. Et c'est pas courant des acteurs qui arrivent à sauter d'une scène à l'autre en faisant ça, quoi.
Mais c'est parce que, en fait, alors, sans être automatiquement un caméléon, parce que c'est pas le cas de Michael Caine forcément, mais c'est quelqu'un qui a cette capacité à se fondre dans son personnage, à effectivement être extrêmement, moi je trouve, charismatique, et en même temps totalement effacé quand besoin s'en fait. Et là, t'as quelques exemples, en fait, dans ce film-là. T'as notamment une scène où il attend un coup de fil et en fait le plan est composé de telle manière, il est dans un pub, le plan est composé de telle manière que tu le remarques absolument pas jusqu'au moment où on l'appelle, et d'un seul coup, en fait, tu dis, mais en fait ce plan qui dure depuis 5-10 secondes, ah, il était dedans, en fait. Alors c'est voulu, c'est volontaire, mais normalement quelqu'un comme Michael Caine, et ça a plus forte raison puisque le film lui colle au basque, en fait, quand même depuis le début, quoi, tu le remarques, tu vois, quoi qu'il arrive, tu dis, ah mais non, ils vont pas m'avoir avec ça, et si, ça marche, tu vois. Et parce que c'est quelqu'un qui a, c'est quelqu'un qui est très grand, hein, c'est quelqu'un qui voilà, mais qui en fait a cette capacité flegmatique, si tu veux, et c'est très très fort, en fait,
à disparaître derrière son personnage.
C'est ça, mais pas seulement ça, en fait, c'est-à-dire même aussi à ne pas s'imposer, en fait, par la force, mais à s'imposer par sa présence plus, en fait, qu'autre chose, quoi. C'est-à-dire vraiment cette capacité, et c'est un acteur extraordinairement versatile, hein, à la base. Alors on peut pas dire que, c'est-à-dire que il est très bien dans le film, hein, mais ça reste une composition dans la lignée de Get Carter ou ce genre de choses, quoi. Par exemple, pour prendre un exemple récent, ça n'a rien à voir avec son rôle, par exemple, son second rôle dans le film de Cuaron, hein, dans Les Fils de l'Homme, où il était carrément, c'était
un vieil hippie
qui fait des blagues tout le temps, etc., etc., et il est absolument formidable dedans, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui a cette capacité de passer d'un truc à l'autre, qui a fait beaucoup de comédies, hein.
C'est-à-dire, dans les années 70, quand sa filmographie prend ce détour, là, notamment avec Get Carter, quoi, La Loi du Milieu, bon, où il joue un truand, quand même, hein, c'est-à-dire le rôle est un peu plus monolithique aussi, quoi.
Non, mais ce que je voulais dire, et tu vois, on parlait de violence, en fait, psychologique, par exemple, Get Carter, c'est beaucoup plus violent psychologiquement que ce film-là, tu vois, il y a quand même des histoires de viol, de pornographie, de trucs comme ça, et on va dire que son jeu est adéquat aussi à ce moment-là.
Ouais, c'est-à-dire, là, il évolue dans un univers feutré de on va dire, de...
D'espionnage.
Ouais, d'espionnage, c'est-à-dire de mecs qui
de faux semblants et de double, de voilà, double sens.
Et de mecs qui se font des tours d'enculés en prenant le thé ou dans des petits bureaux calfeutrés, quoi, tu vois. Donc, c'est ça aussi le truc. Mais oui, non, il faut dire quand même que le détour que prend sa carrière au cours des années 70, là, avec ce type de film... c'est à la base, il vient pas de là, Michael Caine. À la base, en fait, il a explosé avec des films comme Alfil Drager, tu vois, quoi.
Bah c'est ça, bien sûr, des comédies, des trucs un peu branchouilles de l'époque en plus, tu vois. Enfin,
voilà, ouais.
Oui, Alfie, ça m'a jamais fait triper, tu vois, à part lui, en fait, dans le rôle. Le film est pas hyper engageant, quoi.
Ça a été un succès, quoi. C'est-à-dire, ça a été un gros succès générationnel. Mmh. Et c'était un film, en fait, où. Et c'est ça, en fait, qui a amené Michael Caine au cinéma anglais. C'est-à-dire
et à la badasserie, j'ai envie de dire, en fait, de ses rôles, tu vois, parce que justement cet aspect flegmatique, en fait, il est charmeur, quoi, tu vois ce que je veux dire, il est pas juste dur, etc., etc., il y a un vrai truc, en fait, chez lui qui permet, en fait, presque d'arriver à te plonger dans ce rôle là aussi avec lui, quoi.
C'est-à-dire avant des gens comme lui, Michael Caine ou même Richard Burton, avec qui il était ami à l'époque, tout ça, ce sont des gens qui ont amené, bon, même si Richard Burton, lui, c'était un Gallois à l'origine, mais ce sont des gens qui ont amené dans le cinéma anglais, en fait, cette image du Cockney, de en l'occurrence Michael Caine, de l'homme du peuple. où jusqu'ici, en général, les héros anglais étaient assez corsetés dans une sorte d'aristocratie, effective ou non, hein, dans les faits, quoi. Mais où c'était ce type de rôle beaucoup issu de les références étaient issues du théâtre classique de Shakespeare etc et que lui il amène ça il amène cette fibre y compris avec Alfie le dragueur il amène cette fibre de mec issu du peuple qui là en l'occurrence va tomber toutes les gonzesses mais après donc dans les années 70 va se faire justice ou voilà et c'est une figure, c'est un tournant vraiment Michael Caine. Quoi.
Et surtout, c'est une manière de pouvoir permettre aux spectateurs de s'identifier. Mmh. C'est ça qui est très, comment dire, qui est très balèze avec ce mec-là, parce que mine de rien, quand tu le regardes, c'est ça qui est assez dingue, en fait, c'est qu'il est à la fois très grand, très charismatique, et à la fois passe-partout. C'est très... En tout cas, voilà, c'est un acteur assez formidable, quoi.
Et il a
Ouais. Et qui, comment dire, pour moi, en fait, incarne, c'est ce qu'on se disait quand on regardait le film, et c'est vrai qu'en fait, on regardait le film ensemble, et je me suis dit, putain, mais on lui a jamais proposé James Bond, c'est dingue, en fait. Mmh. C'est-à-dire, à tout prendre, il est largement
meilleur. Alors, je crois que ça sera vérifié, je crois peut-être, j'avais lu ça dans ses mémoires, qu'il en a été question à un moment et qu'on lui a proposé.
Ouais, parce que là, c'est dingue, en fait, que ce qu'il ait jamais incarné ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, à tout prendre, à côté de Roger Moore, à côté de George Lazenby, il aurait fait une, à mon sens, une vraie, comment dire,
Il s'est contenté du père d'Austin Powers.
C'est vrai. Mais bon, parce qu'il est représentatif aussi d'un certain type d'espionnage, de films d'espionnage, en fait. Donc avec Hip Crest, comme on disait, etc. etc.
Ouais,
donc,
et puis il reprenait ce look de Hip Crest, effectivement, de l'agent qui était une franchise, hein, d'ailleurs. C'est devenu une franchise.
Trois films.
Dans Austin Powers, où il reprenait ce look avec les lunettes en écaille.
Bah, il remplaçait, en fait, la personne qui était envisagée, c'était Sean Connery, pour le père d'Austin Powers dans Austin Powers Goldmember. Mais évidemment, Sean Connery a fait non, parce que je pense que ça n'intéressait pas de jouer ce genre de rôle-là.
C'est quelle année, Goldmember ?
2002.
Ah oui, il n'avait pas encore pris sa retraite.
Non, il a pris sa retraite un an après, mais il a été, pendant longtemps, il a été vraiment question que Sean Connery joue le rôle du père d'Austin Powers. Hein. Mm-hmm. Et finalement, c'est Michael Caine qui a repris le... Michael Caine, il faut quand même le pas enlever qu'il accepte quand même pas mal, beaucoup plus de choses, même que Sean Connery a pu accepter à une époque. Quoi. Sean Connery avait besoin d'un golf, mais lui, en fait, il avait besoin d'un chèque en général. Hein,
Ah ben moi, je me rappelle, j'ai eu la chance de l'interviewer une fois chez lui, Michael Caine, il m'avait raconté en fait le drame, à quoi l'avait amené cette politique d'accepter tout et n'importe quoi. Et où en fait, ça s'est dénoué ce système-là. Parce que c'est vrai que dans les années 70-80, il en a fait des merdes. Et je songe le film là, The Black Windmill, il est produit par Richard Desanuck. Et pour lui, par exemple, le film suivant qu'il a tourné, c'est The Island, qui est de Michael Ritchie, là, qui est d'après le Peter Benchley, là, le romancier des Dents de la Mer. C'est pas possible ce film. Et il en avait plein comme ça. Et il est arrivé en fait au milieu des années 80, enfin un peu après. Où il a accepté Les Dents de la Mer 4.
Parce qu'il voyait sur la première page du scénario, il avait écrit Bahamas, il a fait OK, j'y vais. Quoi,
voilà,
en fait.
Voilà, il s'est dit, je vais passer du bon temps, et puis bon, ça va me permettre de gagner un peu d'argent, voilà. Tout ça. Et en fait, le soir des Oscars, où il gagne l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour Anna et ses sœurs, de Woody Allen, c'est le seul Oscar de sa carrière, il est aux Bahamas en train de tourner Dents de la Mer 4. Et là, il se dit quand même, c'était la consécration de ma carrière, cette soirée. Je n'ai pas pu y être parce que j'étais en train de tourner ce putain de film.
De merde.
Et en fait, il m'a dit, après ça, je suis rentré chez moi et je me suis dit, mais pourquoi je fais ça ? Ma famille est à l'abri du besoin. Je n'ai pas à m'inquiéter. Pourquoi je continue à enchaîner ces trucs-là ? Et à partir de là, il s'est dit, je vais arrêter, en fait. Ça sert à...
Oui, alors, il a fait quand même fait terminer. Donc,
ça n'empêche pas qu'il a... Oui, par la suite, il a peut-être dérogé un peu à cette règle, mais il a quand même, moi, je veux dire, les années, Steph, en gros, la décennie entre 75 et même jusqu'à la fin des années 80, c'est quand même chaud, hein. Il y a des trucs où tu te disais, putain, sa carrière a pris un tour pas possible. Après... progressivement, on le voit qu'il a amorcé ce mouvement-là parce que maintenant, il est devenu... Alors évidemment, c'est des seconds rôles de luxe, quoi, tu vois, mais il est considéré, il est reconnu par la génération. Moi, il me disait, moi, quand je vais au Japon et qu'il y a plein de d'écoliers, d'écolières qui viennent vers moi en disant « C'est Alfred, c'est Alfred, c'est Alfred, le majordome de Batman. » Il disait, moi, il m'a dit « J'ai pas un grand rôle dans Batman, hein, mais ça suffit à me rendre heureux. Ça suffit à rendre heureux le vieil homme que je suis. » Quoi, tu vois. Donc, et les films de Nolan, c'est quand même des films prestigieux à l'heure actuelle, et il est dedans. Tu vois, il est pas dans
non,
des...
Non, mais
des
je parlais, puis c'est un, moi, fin, pour moi, bon, j'adore terminer pour des raisons déviantes, hein, mais c'est, pour le coup, pour de vrai, un vrai plaisir. Malgré tout, de voir Michael Caine, tu vois, à chaque fois, donc le voir débarquer là-dedans et jouer un onctueux enculé, tu vois, c'est
comment dire,
c'est toujours, c'est toujours rigolo, quoi, même si, évidemment, bon, voilà, c'est pas le, bon, je pense pas que ce soit le pinacle de sa carrière pour lui, quoi, mais pour moi non plus, hein, ceci étant dit, mais enfin, voilà, c'est un vrai acteur que t'as aussi plaisir à beaucoup voir, en fait. Tu vois, quand tu le vois, en fait, moi, c'est un vrai, c'est un vrai bonheur, quoi.
Et donc, il fait partie, c'est un des plaisirs principaux de ce film de Don Siegel dont on est en train de parler, effectivement. Il y en a d'autres, hein, et notamment en casting, il y a des, alors,
Il y a de plaisance.
Il y a des gueules, j'allais dire, comme John Vernon, qui était un habitué de Don Siegel à cette époque-là, puisqu'il a enchaîné coup sur coup Dirty Harry. Charlie Varick et ce film-là, c'est un acteur, John Vernon, enfin ceux dont à qui ce nom ne dit rien, s'ils vont taper son nom
gueule,
sur Google Images,
suite,
ils vont le reconnaître tout de suite. Enfin, il a dans les années 80-90, il a fait des bataillons de séries télé. C'est une voix aussi, John Vernon, une sacrée voix. Il a fait beaucoup de doublures de dessins animés, quoi, notamment des Marvel, des trucs comme ça. Et là, bon, bah, il joue l'antagoniste principal, en tout cas sur le terrain, quoi, pas dans les coulisses, mais sur le terrain. Il joue l'antagoniste principal de Michael Caine. Effectivement, il y a, comme tu le disais, Donald Pleasance, immense acteur, qui là joue un rôle de chef du
MI6. Bureaucrate, quoi, en fait.
Voilà, un bureaucrate et qui le nourrit avec...
Un peu pince sans rire.
Ouais, un peu pince sans rire, un peu coincé du cul aussi, quand même. Il a ce côté, ça, c'est un élément qui l'a amené, Donald Pleasance, au personnage. Il se trimballe tout le temps avec un paquet de Kleenex soigneusement plié en 8 morceaux qu'il range dans sa veste. Et régulièrement, il en prend un pour se tamponner l'aile gauche du nez, on ne sait pas pourquoi, tu vois. Voilà, Donald Pleasance, c'est un immense acteur de composition. C'est quelqu'un qui a eu une vie complètement dingue. C'est par exemple, les gens le connaissent beaucoup, en tout cas les gens de notre génération, un peu moins maintenant, quoi. Mais pour un rôle magnifique dans La Grande Évasion, où c'était un prisonnier de guerre aveugle. Et en fait, ce qu'il fait dans La Grande Évasion, bon, il a pas été aveugle, mais il a été prisonnier de guerre dans des camps de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est crashé avec un avion. À un moment, il se crashe avec James Garner. Il va mourir d'ailleurs dans cette scène, dans La Grande Évasion. Et
tu spoil La Grande Évasion pour
ouais, bah écoute, hein, La Grande Évasion, hein, multidiffusée. Et il a vécu un crash d'avion aussi, justement, quand il était dans la Royal Air Force. Enfin voilà, c'est un type qui a un sacré vécu, qui est capable, on l'a vu chez John Carpenter aussi, tu vois, de jouer des.
Oui, c'est Loomis, hein, dans Halloween.
Ouais, Loomis ou le curé de Prince des Ténèbres, tu vois, ou le président de New York 1997. C'est quelqu'un qui avait un talent dingue, qui a une filmo longue comme le bras aussi. Et là, c'est vrai que c'est un vrai plaisir parce qu'il fait un numéro de bureaucrate manipulateur et coincé, quoi, qui est assez savoureux. Voilà, bon, c'est un casting. On a parlé de Delphine Seyrig aussi. Voilà. Mais non, je pense, voilà, c'est un film. Moi, j'aime bien les films comme ça, quoi. C'est-à-dire des films où on te vend un genre, en l'occurrence, thriller d'espionnage, quoi, tu vois, et où finalement, ça part progressivement dans une autre direction.
Le récit reprend ses droits, quoi.
Voilà, voilà, et à travers les personnages notamment, quoi. Tu vois. Parce que c'est vraiment un film de personnages, quoi. Ça a pas l'air comme ça. Ça a l'air le film d'espionnage, c'est souvent un genre assez mécanique, tu vois, quoi. Et là encore, c'est tout le talent de Don Siegel de jongler avec ses codes. T'as la scène, la valise fusil, là, enfin, qui jette des bombes, là, tu vois, c'est un truc à la Q, quoi. C'est un truc à la James Bond. Et en fait, sur le moment, quand tu vois le truc dans le film, tu te dis. Et après ça coule de source, ça va, y a pas de problème avec ça. Donc c'est un genre assez rigide, ouais, assez mécanique, le film d'espionnage. Et c'est tout le propos du film de gripper cette mécanique par des sentiments humains, quoi. Et je sais que
investir un peu émotionnellement. Ouais.
Voilà, ouais, la relation dont je parlais tout à l'heure entre Michael Caine et son ex-femme est vraiment centrale dans le film parce que c'est un couple séparé. Qui va se réunifier
pour retrouver le petit, quoi.
Pour retrouver le petit, et ça, Don Siegel, il sait parfaitement l'exploiter, quoi. Il y a notamment après leur grande discussion, là, un plan très beau, moi je trouve, où t'as Michael Caine.
Un fondu enchaîné.
Ouais, un fondu enchaîné où, en gros, il part en mission, il va retrouver son fils, et il est parti, quoi, tu vois, pour aller retrouver son fils. Et il commence son truc, il rentre dans une cabine téléphonique.
En fait, c'est pas ça, c'est qu'elle est en train de faire des recherches en bibliothèque pour retrouver justement le fameux, comment dire, moulin iconique dans lequel où serait enfin ça serait la région où se retrouverait son enfant et elle finit par le trouver et à un moment donné elle a ce comment dire elle se penche contre la fenêtre avec une espèce de coucher de soleil et en fait le il y a une surimpression au montage où Michael Caine rentre dans une cabine téléphonique pour commencer à confronter tous les enfin il appelle les gens un par un pour confronter comment dire la taupe éventuelle en fait au sein de au sein des services secrets quoi voilà et en fait ce fondu enchaîné connecte les deux personnages en fait
comme
dans la situation.
Lui, il est très beau le plan quoi.
Donc c'est
si elle veillait sur lui et qu'elle l'accompagnait quoi. Tu vois. C'est voilà et ça c'est des trucs.
C'est la notion. Enfin le truc avec le fondu enchaîné c'est aussi c'est que c'est comme c'est un effet qui est généralement on l'utilise beaucoup plus trop maintenant ce genre de truc au montage quoi. Mais comme c'est un effet qui est généralement assez doux assez parce qu'en fait et il te permet de passer voilà c'est un truc qui te permet de passer d'un truc à l'autre comme ça. Généralement, en fait, quand tu l'emploies très bien, ça donne une vraie connexion émotionnelle. Et là, ça fonctionne très bien, quoi, justement, c'est ça. Après, il y a aussi la conversation qu'ils ont avant, la façon de se réunir, et tout ça, etc., qui joue là-dedans. Mais en tout cas, oui, c'est, ça fonctionne très, très bien,
ouais,
c'est vrai.
Ouais, et c'est moi, la première fois où apparaît sa femme aussi, la scène, c'est-à-dire la première fois où apparaît sa femme, c'est la scène où on apprend le kidnapping de l'enfant, où on vient lui apprendre le kidnapping de l'enfant. Elle est formidable, cette scène aussi. C'est-à-dire, par exemple, t'as à la fin de la scène, elle est brisée par ce qu'elle vient d'apprendre, quoi. Et t'as Michael Caine qui a un mouvement où on sent avec un peu de gêne, mais où il la prend par l'épaule et où on comprend qu'ils sont plus ensemble, en fait, à travers ce geste. Et où lui, en plus, ça définit ce personnage de type qui n'arrive pas à exprimer ses... Enfin,
qui ne veut pas
exprimer ses émotions. Tu vois, voilà.
Parce que ça lui arrive quand même, de temps en temps, il ne faut pas non plus...
Oui, il y a un ou deux moments où il craque dans le film, et d'ailleurs, la réception du film est incompréhensible. Quoi. Le film s'est fait descendre par les critiques avec des arguments c'était à se demander, en fait, si les gens avaient vu le film. Quoi. C'est-à-dire, il reprochait au film ce qui était le cœur du récit, c'est-à-dire tout ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure, en disant ouais, mais attendez, c'est complètement invraisemblable. Michael Caine, son enfant est kidnappé, il a l'air de s'en foutre complètement. Alors, déjà, c'est pas vrai, quoi. Il y a effectivement une ou deux scènes où il pète les plombs.
Mais dès le début, dès le moment où on lui présente le kidnapping, en fait, il s'énerve, quoi.
Mais surtout, vous êtes en train de reprocher au film le cœur même du personnage, quoi. Tu vois, le fait que c'est un type qui n'exprime pas ses émotions. Donc, bon, voilà, le public aussi est passé à côté de ça. Moi, je pense. Je pense aussi que c'est dû au fait que c'est un film qui arrive un peu en fin de parcours, enfin entre deux époques, on va dire quoi. C'est-à-dire c'est un film, c'est un film qui date de 74, ouais, pardon. C'est une époque où le nouvel Hollywood est déjà là, tu vois, et où il est bien implanté. Hein. T'as eu des cartons comme French Connection, Le Parrain, tu vois, tout ça. Où bientôt les années 80 vont se pointer à l'horizon. Il y a déjà Spielberg et Lucas qui sont dans le coin là, et qui arrivent avec leur film. Et ce film-là, il est un petit peu anachronique quasiment.
Moi, je pense surtout qu'il a peut-être été plutôt pris comme un truc un peu générique à cette époque-là, alors qu'il ne l'est pas forcément. Quoi. Mmh. Mais nous, en fait, quand tu le décontextualises, en fait, le film fonctionne très très bien. Quoi. Mais je pense que si tu le contextualisais dans l'époque, en fait... Il a peut-être moins de dureté qu'un Get Carter. Il y a peut-être moins de comment dire. Donc c'est peut-être aussi ce genre de choses qui font que quoi. En tout cas, toujours est-il que le film n'a pas vraiment marché.
Et puis c'est un film aussi qui arrive à un peu en queue de comète de tout le cinéma de genre britannique dont j'ai parlé tout à l'heure. Quoi, tu vois, c'est-à-dire ce cinéma-là, il va traverser une période dans les années 80-90 où il n'existe quasiment plus. Quoi,
ouais,
tu vois, quoi.
Bien sûr.
C'est, après, on va dériver vers des comédies sociales à la Full Monty, des trucs comme ça, où ça va renaître
ça,
un petit peu.
C'est bien des années après, par contre.
Ouais, hein. C'est la fin des années 90. Tu vois.
Bah ouais, y a 25 ans qu'il s'est parlé de films.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que dans les années 80-90, le cinéma anglais disparaît progressivement. Il y a un peu quelques auteurs de festival, tu vois. Il y a des révélations comme Neil Jordan ou des machins comme ça. Mais que, en gros, les succès commerciaux et trucs comme ça vont revenir peu à peu vers la fin des années 90. The Black Windmill, il arrive à une période où, ce que je disais tout à l'heure, la grande période du cinéma de genre des années 50, 60, 70 en anglais, elle est en train de se tarir peu à peu. Quoi, tu vois.
En tout cas, bon, on recommande.
Ah ouais, ouais, clairement.
Alors donc The Black Windmill en anglais.
Super musique de Roy Budd aussi.
Ouais,
hein.
C'est vrai.
Roy Budd, le même musicien que Get Carter.
Contre une poignée de diamants en français. C'est disponible chez Elephant Film en Blu-ray. Hein. DVD Blu-ray. Donc on recommande Sean Maud, Don Siegel. Hein,
ah, Don Siegel. Cœur avec les doigts, quoi. Tu vois. Voilà, cœur avec les flingues, quand même.
Cœur avec les flingues dans... dont on vide les chargeurs dans les couilles, il est méchant. Bref, merci Arnaud.
Merci à toi, Steph.
Merci à la, merci, merci à la Alain. Technique. Merci à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon. Patreon.com, les mots-clés sont Capture Mag, pour ceux qui veulent nous soutenir et qui ne le font pas encore. On se retrouve tous sur les réseaux sociaux habituels, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. C'est, les mots-clés sont toujours Capture Mag. Et puis Arnaud, on se retrouvera avec un autre film.
Pour sûr.
Voilà.
À très bientôt.